Chapitre 6. Chagrin. Concord, New Hampshire, mai 2010. Face au cercueil, gardé par des bouquets de roses blanches, la famille et les amis des Gallowood, assis sur des rangées de chaises pliables, écoutaient l'oraison du pasteur. Perry, au premier rang, entourait ses filles de ses bras puissants. À sa demande, j'avais pris place derrière lui. Je ne pouvais pas voir ses larmes, mais je les devinais au mouvement de son corps. Je gardais ma main sur son épaule, comme si je pouvais, par ce geste dérisoire, alléger sa douleur. Ce qui me marqua le plus pendant ses funérailles, ce fut le chagrin bruyant de l'assemblée. C'était le plus vibrant des éloges, le plus éloquent des hommages. Il révélait tout l'amour qui avait inspiré la défunte, non pas tant ce qu'elle avait été que ce que l'on ne sera plus sans elle. Puis les filles de Perry et Hélène, Malia et Lisa, entonnèrent avec des accents déchirants « Amazing Grace ». Il était ensuite prévu que Perry prenne la parole. Mais au lieu de se lever pour rejoindre la petite estrade, il se tourna vers moi et me tendit une feuille froissée. C'était son discours. Il était incapable d'articuler le moindre mot. C'est donc moi qui me postai devant le cercueil d'Hélène face à l'assemblée. En embrassant du regard ce cimetière fleuri, je songeais que ce moment était à l'image d'Hélène, d'une perfection désarmante, quelque chose de sublime et de désarçonnant. Puis je fixai le texte, perlé de traces de larmes qui avaient fait couler l'encre. En prononçant les mots de Perry, j'ai dû me cramponner au pupitre en bois pour tenir bon. L'évocation du drame d'Hélène qui venait de survenir me renvoyait brutalement à un chapitre très difficile de ma propre vie, la mort quelques années plus tôt et dans des circonstances tragiques de ma tante Anita. Après les obsèques, une réception était offerte au domicile des Gallowood. La maison débordait de monde. Le service traiteur étant un peu dépassé, je leur prêtai main forte. Un plateau de hors-d'œuvre dans une main et une bouteille de vin dans l'autre, je déambulais à travers les pièces du rez-de-chaussée où les invités s'étaient répartis par petites grappes. Je fis la rencontre de la famille d'Hélène et de ses collègues de travail. Je fus ému de découvrir qu'ils me connaissaient tous, non pas comme Goldman, l'écrivain, mais comme Marcus, l'ami des Gallowood. Je ne m'étais pas senti autant moi-même depuis longtemps, débarrassé pour quelques heures de mon costume de Goldman. Peu à peu, les conversations dispersées n'eurent plus qu'un sujet, Hélène. Chacun l'évoqua d'un souvenir marquant. Lorsque vint mon tour, on me demanda de dire dans quelles conditions je l'avais rencontrée. Pour surmonter mon désarroi, je m'efforçai à l'humour. Hélène était une femme extraordinaire. Pour avoir le privilège de la connaître, j'ai d'abord dû me farcir Perry. Un rire parcourut l'assemblée. La première fois que j'ai vu Perry, c'était il y a 2 ans et demi, au début de l'enquête sur l'affaire Harry Kébert. Je me souviens encore de la date, le 18 juin 2008. Difficile d'oublier ce jour. Perry m'avait surpris en train de saloper une scène de crime et avait braqué son arme sur moi. Tout simplement. Après quoi il s'était plaint que mon livre était épouvantablement mauvais et avait exigé que je lui rembourse les $15 qu'il lui avait coûté. « C'est vrai », confirma Perry, provoquant un éclat de rire général. « Je lui ai donné $50, il n'avait pas la monnaie. » « J'avais la monnaie, mais vous m'énerviez, l'écrivain. » L'assemblée était hilare. Peu après cet épisode, repris-je, Perry, qui s'était finalement rendu compte que j'étais un type merveilleux, m'avait invité à dîner chez lui. « C'était uniquement par pitié. Vous étiez victime de menaces. » Je me souviens de ce soir d'été, ici même, dans cette maison, le soir où Hélène entra dans ma vie. Elle m'a ouvert son cœur, comme peu de gens l'ont fait. Elle était douceur et tendresse. Elle était la générosité même. Elle rendait le monde meilleur. Aujourd'hui, mes amis, en évoquant Hélène devant vous, je suis à la fois désespéré de l'avoir perdue et reconnaissant de l'avoir côtoyée. Nous n'apprivoisons pas assez la mort. N'oublions pas qu'elle est inhérente à la vie. Il faut parler des disparus pour qu'ils restent vivants. Si par pudeur on évite d'évoquer leur mémoire, alors on les enterre pour de bon. Il y a quelques semaines, j'ai eu le bonheur de retrouver les Gallowood en Floride. Nous avons dîné chez mon oncle Saul, qui est un homme cher à mon cœur. J'ai été très heureux que mon oncle rencontre Hélène. Et si vous me le permettez, je voudrais le citer ici et reprendre les mots qu'il a prononcés à l'enterrement de ma tante Anita. La grande faiblesse de la mort, c'est qu'elle ne peut venir à bout que de la matière. Elle ne peut rien contre les souvenirs et les sentiments. Au contraire, elle les ravive et les ancre en nous pour toujours. Comme pour se faire pardonner en nous disant « C'est vrai, je vous enlève beaucoup, mais regardez tout ce que je vous laisse. » Ce qui m'intrigua ce jour-là chez les gars Hollywood, c'est que je ne rencontrais aucun collègue de Perry. Le seul représentant des forces de l'ordre était le chef Lansdane, de la police d'État du New Hampshire, dont j'avais fait la connaissance pendant l'affaire Harry Kéber. Je m'étais attendu à voir des policiers par dizaines, solidaires de l'endeuillé, tous en uniforme d'apparat. J'en fus déconcerté au point de m'en ouvrir au chef Lansdane. Je tentai une approche subtile en lui proposant un plateau de canapé au saumon dont il s'était déjà servi deux fois. « À part vous, je ne vois aucun policier ?» lui fis-je remarquer alors qu'il mâchait son toast. Il prit le temps de déglutir avant de me répondre. « Ça vous surprend, Marcus ?»« Oui, j'avoue. Où sont les collègues de Perry ?» Le chef Lansdane posa sur moi un regard circonspect. « Pendant l'affaire Harry Kéber, ça ne vous a jamais étonné que Perry enquête seul ?» me demanda-t-il. « Je vous avoue que ça ne m'a pas frappé sur le moment, mais maintenant que vous le dites... » En général, les policiers travaillent en binôme, jamais en solo, à part Perry Gallwood. « Pourquoi ?» interrogeai-je. « Il ne vous a jamais raconté ce qui s'est passé il y a 11 ans ?»« Non ?»« Peu importe, » décréta Lansdane. Tout ça pour dire que Perry n'était déjà pas très proche des autres membres de sa brigade et que l'affaire Harry Kéber n'a pas arrangé les choses. Quel est le lien avec l'affaire Harry Kéber? Laissez tomber, Marcus. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Vous en avez trop dit ou pas assez? Lansdane regarda autour de lui. Nous étions loin de toute oreille indiscrète. Il finit par lâcher sur le ton de la confidence. Perry s'est battu pour décrocher le dossier Nola Kellerghan, qui avait d'abord été attribué à deux autres policiers. C'était une affaire délicate. Harry Kéber était une personnalité de premier plan. Perry m'a convaincu de lui confier l'affaire. Perry et moi nous connaissons bien. À l'époque, j'étais son responsable au sein de la brigade criminelle, avant de devenir chef de la police d'État. Bref, j'ai fait en sorte qu'il reprenne ce dossier, et ses collègues ne le lui ont jamais pardonné. Mais pourquoi tenait-il tant à mener l'enquête sur le meurtre de Nola Kellerghan? Je pense qu'il y voyait l'occasion de se racheter. Au fond, vous savez, c'est pour ça que je vous aime bien, Marcus. Avec cette affaire Harry Kéber, vous avez foutu un sacré bordel, mais vous avez aidé Perry à réparer quelque chose en lui. Réparer quoi? Je ne peux rien vous dire de plus. Si Perry n'a jamais fait mention de tout ceci, c'est sans doute pour une bonne raison. À lui de vous en parler. Sur ces mots, Lansdane tourna les talons et me planta là. Lorsque les derniers invités et le service traiteur furent partis, je restai pour remettre la maison en ordre. J'étais seul au rez-de-chaussée. Les filles étaient allées se coucher, je pensais que Perry en avait fait autant. Je m'affairai à ranger pour qu'au matin il trouve place nette. Je vidai le lave-vaisselle, nettoyai un cendrier oublié, rangeai les plats de service qu'on avait laissés à sécher. J'éteignis les dernières lumières et je m'apprêtai à m'éclipser. J'avais prévu de passer la nuit dans un hôtel voisin, pour être à la disposition de Perry le lendemain, s'il avait besoin de moi, mais sans l'encombrer par ma présence à demeure. Au moment où je m'en allais, Perry surgit dans la cuisine, comme s'il remontait des enfers, livide, défait. Ses yeux trahissaient l'état de son cœur. Nous nous dévisageâmes. Je sus à cet instant que j'allais m'installer quelque temps chez eux. Perry murmura simplement « Vous savez où se trouvent les draps du canapé-lit. » Puis il tira une chaise et s'assit. Cela voulait dire dans son langage qu'il avait besoin de parler. Je nous servis deux grands verres de scotch. D'une voix caverneuse, il me raconta la mort d'Hélène. Il m'avait déjà rapporté une partie des faits. Il avait d'ailleurs probablement répété cette histoire des dizaines de fois, et il continuerait encore. Pendant longtemps, à chacune de ces conversations, même les plus insignifiantes, chez le coiffeur, au supermarché, avec une vieille connaissance croisée au hasard d'une rue, on lui infligerait de revenir sur cette tragédie. Hélène est morte, mais que s'est-il passé? Il s'était passé qu'un soir, en rentrant tard du travail, Hélène s'était arrêtée sur le parking d'une enseigne de restauration rapide, vraisemblablement pour dîner. Elle avait garé son véhicule, mais n'en était jamais sortie. 2 heures plus tard, un passant avait remarqué le corps d'Hélène dans la voiture, étrangement penché contre le volant, et avait prévenu les secours. Mais leur intervention fut vaine. Il était trop tard. Hélène avait succombé à une crise cardiaque. Son infarctus avait en réalité débuté des heures plus tôt. Elle s'était plainte à des collègues d'avoir des maux de dos et de se sentir nauséeuse. L'une d'elles avait même plaisanté qu'elle n'avait plus l'âge d'être enceinte, et Hélène avait ri de bon cœur. Elle avait cru à un état de fatigue passager, sans doute un peu de surmenage. Et ça faisait un moment qu'elle n'était pas en forme, m'expliqua Perry. Le séjour en Floride était censé lui permettre de recharger un peu les batteries. On a été obligé de faire une autopsie, c'est la loi. Le médecin m'a appris qu'une femme sur deux victime d'un infarctus passe complètement à côté des symptômes. J'eus l'impression que Perry se sentait coupable de quelque chose. Je lui dis alors, « Vous n'y êtes pour rien, sergent. Vous n'auriez probablement rien pu faire. » Il grimaça. « Ce n'est pas aussi simple que ça, Marcus. Je ne l'avais jamais entendu m'appeler par mon prénom. Le soir de sa mort, Hélène a désespérément essayé de me joindre. « Je suis au courant, » le rassurai-je. « Les filles m'en ont parlé. Vous étiez assoupi et vous n'avez pas entendu votre téléphone. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. » « Je ne dormais pas, Marcus. J'ai menti à tout le monde. Ce soir-là, j'étais ici même, dans cette cuisine, et j'ai regardé mon téléphone vibrer sur la table. J'ai volontairement ignoré ses appels. » Je restais interloqué. Gaal Wood poursuivit. Comme je ne répondais pas, elle a fini par me laisser un message vocal. Il manipula son téléphone portable. Une annonce électronique précisa d'abord que le message avait été reçu le 20 mai à 21h05, puis soudain la voix d'Hélène résonna.
« Perry, où es-tu? Rappelle-moi. Rappelle-moi, s'il te plaît, c'est urgent. »
« Je ne me le pardonnerai jamais, » sanglota Gaal Wood. « Si j'avais répondu à Hélène, si j'avais écouté son putain de message. » « Sergent, que se passait-il entre Hélène et vous ?» Elle me trompait. Quoi? Vous en êtes sûr? Presque certain. Je n'imagine pas du tout Hélène avoir une aventure, sergent. C'est parce que vous êtes trop fleur bleue. Perry avait remarqué que sa femme se comportait de façon inhabituelle depuis quelques semaines. Elle était souvent absente, m'expliqua-t-il. Elle rentrait tard au bureau, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Quand je m'en suis étonné, elle m'a expliqué que son nouveau patron était beaucoup plus exigeant que le précédent. Je sentais bien qu'Hélène ne me disait pas la vérité, qu'elle me fuyait. Ça a été le début de tension entre nous. « Quand est-ce que cela a commencé ?» demandai-je. « En avril, peu après votre venue pour l'anniversaire de Lisa. Donc, en Floride, quand je vous ai vu, vous étiez en pleine crise ?»« En pleine crise. » Mais vous aviez l'air pourtant si bien tous les deux. Les apparences, l'écrivain. Les apparences sont le ciment de nos vies sociales. Mais dans l'intimité de nos maisons, tout s'effondre. C'est d'ailleurs juste avant de partir pour la Floride que j'ai découvert le poteau rose. Vous vous souvenez de ce fameux soir où nous nous sommes téléphonés? Vous étiez sur votre île paradisiaque, à traîner votre spleen. Et vous me sembliez tout aussi mal en point, sergent, fis-je remarquer. Ce jour-là, Hélène m'avait annoncé qu'elle devait rester tard au bureau pour terminer une présentation. J'ai eu un doute et je me suis pointé à son bureau. Il devait être 21h. En arrivant à l'étage, tout était éteint. Il n'y avait que les femmes de ménage qui s'apprêtaient à partir. « Cela ne prouve rien, » objectai-je. « J'ai appelé Hélène, mais pas de réponse, » poursuivit Perry. Alors je suis allé faire un tour dans le quartier. Il ne m'a pas fallu marcher longtemps pour la trouver attablée dans un restaurant, en tête à tête avec son patron. Je restais déconcerté. « Qu'avez-vous fait ? » demandai-je. « Rien. Ça m'a scié les jambes. Je ne voulais pas y croire. Je suis retourné à la maison. Hélène n'est rentrée que tard dans la nuit. Le lendemain matin, lorsque je lui demandais comment s'était passée sa soirée, Elle me répondit avec aplomb qu'elle l'avait passé derrière son écran d'ordinateur. Et ensuite, nous devions partir le surlendemain pour la Floride. J'ai décidé de ne rien dire. Peut-être par lâcheté ou parce que j'espérais que notre séjour nous permettrait de recoller les morceaux. Mais enfin, sergent, pourquoi ne m'avoir rien raconté quand nous nous sommes vus quelques jours plus tard à Miami? Trop difficile. Je n'aurais même pas su par où commencer. Vous savez, on se jure souvent que si notre partenaire nous trompait, on le quitterait sur le champ. Mais en réalité, ce n'est pas si facile. On est seul, avec sa boule dans le ventre, à espérer que tout ceci puisse être occulté. Et puis il y a les enfants. Bref, au retour de Floride, Hélène et moi étions plus distants que jamais. D'autant que j'avais la preuve qu'elle me mentait. C'est-à-dire? Elle roulait beaucoup. Je suis flic, je me suis donc mis à surveiller le kilométrage de sa voiture pour essayer de comprendre ce qu'elle fabriquait. Si elle passait vraiment ses soirées au bureau comme elle le prétendait, elle ne devait pas rouler beaucoup plus que la distance aller-retour qui sépare la maison du centre-ville de Concorde. Mais j'imagine que ce n'était pas le cas. Vous imaginez bien l'écrivain. Et donc, que s'est-il passé le soir de sa mort? Elle était soi-disant au bureau. Elle m'a prévenu à la dernière minute. J'ai dîné seul avec les filles et je suis resté ensuite dans la cuisine à poireauter, à attendre qu'elle rentre. Je me suis même promis de l'affronter cette fois, d'en terminer avec ce mensonge. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas répondu lorsqu'elle m'a téléphoné. Je ne voulais pas qu'elle me débite encore des salades. Je ne voulais pas qu'elle justifie un retour encore plus tardif, qu'elle me dise qu'elle devait terminer un dossier, que j'aille me coucher sans l'attendre. Je ne voulais pas qu'elle ait l'opportunité de se défiler. Alors je n'ai pas répondu. J'ai regardé le téléphone vibrer. Je n'ai même pas écouté son message. Plus tard, le chef Lansdane est venu sonner à ma porte. Ce n'est pas un passant qui a découvert Hélène, comme je l'ai raconté à tout le monde. Elle avait appelé Lansdane. J'ignore pourquoi lui. Probablement en désespoir de cause, mais il était arrivé trop tard. Voilà la vérité, Marcus. J'ai regardé ce putain de téléphone sonner et j'ai laissé crever Hélène.
Ne pensez pas à ça, sergent.
Mais à quoi vous voulez que je pense, nom de Dieu ?
Dans un geste de colère, il lança son verre contre un mur de la cuisine, puis s'effondra sur sa table, son visage entre ses mains. Je lui dis doucement : Allez vous coucher, sergent. Vous avez besoin de dormir. Je vais tout ramasser. Il obéit. Sans prononcer un mot, il remonta dans sa chambre comme une ombre. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je repensais au message laissé par Hélène. Elle disait à Perry « C'est urgent ». Pour moi, ça ne laissait pas entendre une urgence médicale, mais plutôt un besoin de partager une information. Que s'était-il passé ce soir-là dans la vie d'Hélène Gallwood? Et qu'avait-elle découvert? Le lendemain matin, tandis que j'essayais de me remettre de ma nuit quasiment blanche en buvant une tasse de café sous le porche de la maison, une employée du service postal déposa le courrier dans la boîte aux lettres. Elle m'adressa un signe amical. Je m'approchai. « Vous êtes de la famille d'Hélène Gallwood ?» me demanda-t-elle. « En quelque sorte. »« C'est affreux, cette histoire. Une femme si jeune, si sympathique. Elle était la seule dans le quartier à me saluer systématiquement et à penser aux étrennes en fin d'année. Vous transmettrez mes sincères condoléances à son mari et ses filles, s'il vous plaît. Je m'appelle Edna. »« Je n'y manquerai pas, Edna. » Après une hésitation, elle s'enquit. « Est-ce qu'Hélène vous a parlé de l'enveloppe ?»«
Quelle enveloppe ?»
Quelques semaines plus tôt. Ce matin-là, alors qu'Edna effectuait sa tournée quotidienne, elle trouva Hélène Gallwood plantée à côté de sa boîte aux lettres qui guettait son passage. Hélène semblait agitée et l'employé du service postal remarqua qu'elle tenait une enveloppe bleue.
« Edna !» demanda Hélène. « Est-ce que c'est vous qui avez déposé ceci dans ma boîte aux lettres hier ?»
Son ton laissait transparaître une certaine contrariété.
« Je distribue des centaines de lettres par jour, » expliqua Edna, un peu décontenancée. « Je ne peux pas me rappeler chacune des enveloppes qui me passent entre les mains. Laissez-moi jeter un œil quand même. »
Edna, manipulant l'enveloppe, remarqua qu'elle était vierge de toute inscription et n'était pas affranchie.
« Ça ne peut pas avoir été distribué par nos services, Hélène, » dit-elle alors. Il n'y a d'ailleurs ni nom ni adresse. Comment aurions-nous pu savoir que vous étiez la destinataire? On n'est pas des devins.
Donc, si ce n'est pas vous qui l'avez déposé dans ma boîte aux lettres, qui est-ce?
Quelqu'un qui vous connaît et qui est venu directement la glisser ici à votre intention? Un voisin, peut-être? Ou un admirateur secret? Plaisanta Edna.
Ça ne l'a pas fait rire, précisa Edna. Elle semblait vraiment très irritée.
Et que contenait cette enveloppe? Demandai-je. Hélène ne me l'a jamais dit.
C'est la dernière fois que je l'ai vue.
Et quand était-ce?
Je ne m'en souviens pas exactement. Le temps passe si vite.
Ça doit bien remonter à 2 mois.
Vous arriveriez à être plus précise? Un détail qui vous reviendrait à propos de cette journée?
Elle fit un effort de réflexion, puis me dit soudain illuminée.
Le même jour que l'alerte à la bombe au Capitole du New Hampshire. Quel bazar ce matin-là. Toute la ville bloquée. J'étais en retard pour ma tournée. Oui, j'en suis certaine à présent. C'était le même jour.
Une rapide recherche sur Internet me permit de retrouver facilement la date de cette alerte. C'était le 7 avril. Hélène s'était plainte le 7 avril d'un courrier reçu la veille, soit le 6, soit le jour de ma venue chez les gars à Hollywood et surtout celui de l'anniversaire de Lisa. Était-ce une coïncidence? Et que contenait cette enveloppe? Est-ce que l'appel d'Hélène à Perry le soir de sa mort était lié à la lettre? Ma première hypothèse fut d'associer les soupçons d'adultère à cette lettre. Quelqu'un la faisait-il chanter? Il fallait que je tire tout cela au clair, et la première personne que je devais interroger était le patron d'Hélène. Je me rendis donc sur son lieu de travail, au centre-ville de Concorde, sans en dire un mot à Galwood. Le patron d'Hélène était un certain Mats Bergson, un Danois sympathique dont j'avais fait la connaissance à l'enterrement. Il me reçut dans son bureau.
« Marcus, qu'est-ce qui vous amène ?» me demanda-t-il aimablement en m'installant dans un fauteuil en cuir.
« Je voulais vous parler d'Hélène. »«
Je vous écoute. »
Je n'avais pas envie de poser frontalement la question d'une éventuelle liaison entre eux et je préférais tourner un peu autour du pot.
« Son mari l'a trouvée distante dernièrement, » expliquai-je. « Elle avait un comportement étrange. Elle passait apparemment ses soirées au bureau. Elle devait terminer un projet important, c'est ça ?»
Mats Bergson eut une espèce de soupir embarrassé. Comme vous le savez, Marcus, je suis danois, et au Danemark, on n'est pas adepte de ce genre de stupidité.
Il m'avait pris à mon propre jeu. Il faisait une allusion que je ne comprenais pas. Je fus obligé de demander « De quelle stupidité parlez-vous ? »
La stupidité de rester au bureau jusqu'à pas d'heure. Ce sont les Américains qui ont inventé ça. Prouver sa valeur au travail en restant au bureau plus tard que les autres, en envoyant des emails en pleine nuit et pendant le week-end. Ça n'a aucun sens. En réalité, si vous devez faire des heures supplémentaires, c'est parce que vous n'avez pas réussi à accomplir le travail demandé pendant le temps imparti et qu'il faut donc vous virer. C'est ce que j'ai toujours inculqué à mes équipes et à Hélène aussi. Je pars systématiquement le dernier de ce bureau vers 19h. Personne ne finit tard ici. Ce n'est pas ma mentalité.
Et vous insinuez qu'Hélène n'était donc pas au bureau le soir et qu'elle mentait à son mari?
Il acquiesça d'un mouvement de tête.
Et que faisait-elle alors? L'interrogeai-je.
Je l'ignore.
J'avais l'impression que Mats Bergson ne me disait pas toute la vérité, et je me décidai à sortir mon atout.
Vous le savez en tout cas pour un soir, dis-je d'un ton sec, puisque vous avez emmené Hélène dîner en tête à tête. Son mari vous a vu tous les deux. Vous faites ça avec toutes vos salariés? C'est peut-être la mode au Danemark.
Pour toute réponse, Mats se leva pour attraper un cadre sur son bureau qu'il me tendit. C'était une photo de lui, en costume de marié, embrassant un autre homme à pleine bouche.
Benjamin et moi, nous nous sommes unis il y a 2 mois. Nous étions parmi les premiers couples d'hommes à convoler depuis que le mariage gay est légal dans le New Hampshire.
Je ne suis qu'un idiot, soupirai-je.
Non, Marcus, vous êtes un ami qui se préoccupe des gens qu'il aime. Vous savez, Hélène m'a souvent parlé de vous.
Que vous a-t-elle dit?
Que vous étiez un type bien. Et je le vois. Elle était heureuse que vous soyez entré dans la vie de son mari. Hélène avait des problèmes, Marcus. Je l'ai effectivement invitée à dîner parce que je me faisais du souci pour elle.
19 avril 2010. Il était 19h, lorsque Mats Bergson ferma la porte de son bureau. Comme tous les soirs avant de s'en aller, il fit un rapide tour des locaux. Il salua les femmes de ménage qui commençaient leur service, puis se dirigea vers les ascenseurs.
C'est à ce moment-là que, longeant le bureau d'Hélène, il l'aperçut à travers la paroi vitrée. Elle était à son poste de travail, en train de pleurer. Il passa la tête par l'entrebâillement de la porte.
« Hélène, que t'arrive-t-il ? »
Elle essuya ses larmes.
« Rien, Mats. Pardon, tout va bien. »
« Tu n'as pas à t'excuser, je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette. »
« Je ne savais pas que tu étais encore là. »«
Tant mieux, » dit Mats. « Comme ça, tu peux me raconter ce qui te tracasse. »
Elle se leva et attrapa son manteau.
« Ne t'inquiète pas, il faut que je file. »
« Où ça ?»
Elle s'arrêta face à Mats et éclata soudain en sanglots.
« Je suis à bout de nerfs, Mats, »
murmura-t-elle en laissant tomber sa tête contre son épaule. Il l'enlaça d'un geste réconfortant.
« Je ne te laisse pas partir dans un état pareil. Viens, je t'emmène dîner. »
Ils mangèrent dans un restaurant italien à quelques pas du bureau. Hélène avait visiblement le besoin de se confier, mais elle n'était pas encore prête. Mats crut d'abord qu'elle avait des difficultés au travail. Il aborda la question, mais Hélène lui assura que tout allait bien de ce côté-là.
« Ça concerne Perry, » lâcha-t-elle finalement.
« Que lui arrive-t-il ? » demanda Mats.
« Il ne le sait pas encore. »
« Il ne le sait pas encore ?» répétai-je après que Mats Bergson m'eût rapporté cette scène.
« Ce sont ses mots exacts, » m'assura-t-il. « Elle n'a rien voulu me dire de plus. Je n'ai jamais su où elle voulait en venir. » Ce soir-là, en revanche, elle m'a demandé de la couvrir si Perry venait au bureau pour m'interroger sur ses horaires, mais il ne l'a pas fait.
Perry pensait qu'elle avait un amant et que c'était vous.
Ce n'était en tout cas pas moi, vous l'aurez compris. Mais je doute qu'Hélène eût une liaison. Son tracas concernait Perry. Du moins, c'est comme cela que je l'ai ressenti. Après ce dîner, nous n'avons plus jamais abordé le sujet.
A-t-elle fait mention d'une lettre ? Demandai-je.
Une lettre ? « Non, pourquoi ?»«
Pour rien. Est-ce que vous m'autoriseriez à jeter un coup d'œil à son bureau ?» Le bureau d'Hélène était resté tel quel. Mats avait eu l'élégance de ne rien toucher tant que Perry n'était pas venu récupérer les effets personnels de sa femme. J'avais espéré que Mats me laisserait seul un moment, mais il se tint sur le pas de la porte, à me toiser du regard pendant que j'ouvrais les tiroirs et que je fouillais parmi les documents posés sur la table de travail. Il se montrait moins sympathique. Il se demandait ce que je fichais là et regrettait de m'avoir donné accès au bureau.
« Enfin, que cherchez-vous ici qui puisse être si important ?» finit-il par s'agacer.
« Un document personnel qu'Hélène aurait laissé ici, » répondis-je. Mais je ne trouvais rien. Je n'avais pas la moindre piste. Après ma visite à Mats Bergson, je me rendis sur le parking où Hélène était décédée. C'était le parking d'une enseigne de restauration rapide, Fanny's, à proximité d'une sortie d'autoroute. J'y venais davantage pour un pèlerinage que dans l'espoir d'y découvrir quoi que ce soit, et je restais plus d'une heure à observer des rangées de voitures anonymes en essayant d'imaginer l'endroit exact où Hélène s'était retrouvée désespérément seule lorsque son cœur avait lâché. Avant de quitter les lieux, j'entrai au Fanny's, me commandai un café. Au moment de me servir, l'employé me demanda « Vous êtes policier ?»«
Non, pourquoi ?»«
Comme ça. Je vous ai vu dehors, en train de tourner autour de l'endroit où cette dame est morte le mois dernier. Je me suis dit que ça avait peut-être un lien. » Sa remarque m'intrigua. Pourquoi la police reviendrait-elle un mois après les faits sur les lieux d'une simple crise cardiaque ? Je sentis qu'il y avait là une piste à creuser. « Je suis effectivement un proche de la femme dont vous parlez, » expliquai-je. « Je voulais voir l'endroit où elle est morte. »«
Mes condoléances. »«
Merci. »«
Vous étiez de service ce soir-là ?»«
Ah oui, je lui ai même parlé à cette dame. »« La pauvre, ça se voyait qu'elle n'allait pas bien. »«
Vous voulez dire physiquement ?»«
Non, moralement. »« Je me souviens bien de ce soir-là. »« Comment l'oublier ? » ?»« Il n'y avait pas grand monde, j'attendais derrière le comptoir. »« Je l'ai vue entrer et s'asseoir à une table sans commander. »« Elle avait l'air désespérée. » comme si elle avait appris une terrible nouvelle ou si elle avait peur. Je suis allé la voir parce que la politique de la maison, c'est pas de consommation, pas de table. Mais bon, j'étais un peu embêté. Elle jouait nerveusement avec son téléphone. Elle semblait complètement perdue. Je lui ai expliqué qu'il fallait consommer pour s'asseoir. Elle m'a dit « Apportez-moi ce que vous voulez ». Je lui ai indiqué qu'il fallait commander au comptoir, que je ne pouvais pas faire du service à la place parce qu'il y avait des caméras et que si mon manager voyait ça, je pouvais perdre mon boulot.
Elle a marmonné quelque chose et elle est finalement partie.
Quelle heure était-il ?
22 heures environ.
Et ensuite ?
Ensuite, il y a ce flic qui a débarqué.
L'employé ne semblait pas faire allusion à la police en général, mais à quelqu'un en particulier.
Quel flic ? Demandai-je.
Un bon moment après le départ de la dame, un type est arrivé dans le restaurant. Il a parcouru les tables du regard, puis il est venu au comptoir et a brandi un badge de policier. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec une femme et il m'a décrit la fameuse dame. Je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter, puis il est allé voir sur le parking et j'imagine qu'il l'a trouvée inanimée dans sa voiture.
Et vous avez le nom de ce flic par hasard ?
Oui, il m'a laissé sa carte au cas où. Je crois que c'est un grand chef en plus. Attendez.
L'employé s'éloigna pour aller consulter le tableau des plannings de service et en décrocha une carte de visite. Je découvris le nom qui y figurait. C'était le chef Lansdane. Je restai stupéfait.
« Cet homme vous a dit qu'il avait rendez-vous ici ? » demandai-je.
« Absolument, » me confirma l'employé.
Quelque chose clochait. Perry m'avait effectivement raconté qu'Hélène avait contacté Lansdane le soir de sa mort. Mais si Lansdane avait débarqué dans ce restaurant, c'est parce qu'elle lui avait donné rendez-vous. Elle ne l'avait donc pas appelé à cause de son malaise. Elle devait lui parler de quelque chose.
Mais avant l'arrivée de Lansdane, Hélène avait été éconduite par le serveur et était retournée dans sa voiture où elle avait fait une crise cardiaque. Lansdane savait à propos d'Hélène quelque chose que Perry et moi ignorions. J'appelai Lansdane aussitôt. Après quelques mots seulement, il m'interrompit. « Je préférerais que l'on discute de tout cela face à face. Vous êtes libre dans une heure ?» Je retrouvai le chef Lansdane dans un parc public du centre de Concorde. C'était une chaude journée, l'été avant l'heure. L'esplanade était baignée de soleil. Il m'attendait sur un banc en pierre face à une grande fontaine. « Je dois d'abord vous dire, » me confia d'emblée Lansdane, « que je ne suis pas au courant de grand-chose. » J'aime bien Perry, mais je ne peux pas dire que nous soyons particulièrement proches. Cependant, il y a quelques semaines, Hélène a demandé à me voir. Nous avons pris un café. Je lui ai trouvé très mauvaise mine. Pour être honnête, son discours n'était pas très cohérent. Elle m'a dit qu'elle traversait une période difficile, qu'elle avait des soucis qu'elle ne pouvait pas partager avec Perry.
Et pourquoi ne pouvait-elle rien lui dire ? Demandai-je.
Je lui ai posé la même question, m'indiqua Lansdane. Et vous savez quelle a été sa réponse ?
Pour le protéger.
Mais le protéger de quoi ? De cette lettre qu'elle a reçue ?
Lansdane posa sur moi des yeux stupéfaits.
Vous êtes au courant de la lettre ?
J'ai appris en parlant à l'employé des postes qu'Hélène avait reçu une lettre qu'il avait mise dans tous ses états. Mais visiblement, vous le savez.
Je ne l'ai découvert que le soir de sa mort. Après notre entrevue, je n'ai plus eu de nouvelles d'Hélène, jusqu'à ce soir tragique. Elle m'a téléphoné, il était tard. Je lui avais laissé mon numéro de portable en cas de nécessité. Et c'était visiblement le cas, elle était bouleversée. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à joindre Perry et qu'elle avait besoin d'aide. Qu'elle avait reçu une lettre anonyme dont elle avait identifié l'expéditeur. Elle m'a donné rendez-vous à Fanny's à la sortie de l'autoroute. Quand je suis arrivé, pas de trace d'Hélène à l'intérieur du restaurant. Je l'ai finalement trouvée dans sa voiture. Elle était morte.
« Et cette fameuse lettre ? » demandai-je. « Avez-vous pu mettre la main dessus ?»
Non, j'ai fouillé la voiture, le vide-poche, la boîte à gants, rien.
Savez-vous à quoi cette lettre faisait allusion ?
Tout ce qu'Hélène m'a dit, c'est que cela concernait l'affaire Alaska Sanders.
L'affaire Alaska Sanders ?
Il y a 11 ans, au printemps 1999, une jeune femme a été retrouvée assassinée dans une forêt du New Hampshire. C'est Perry qui était chargé de l'enquête, avec un de ses collègues et amis, le sergent Vance. Ils ont rapidement arrêté un suspect, le petit ami de la fille. Mais un drame est survenu.
Ce que me raconta le chef Lansdane me laissa sans voix.